Voilà, alors je ne vais pas du tout être debout, je n'aurai pas une intervention dynamique dans le sens gestuel certainement, mais pas au niveau de déplacement spatial. Je vais rester assise et en plus je n'ai pas de poche et je suis obligée pour l'enregistrement. Donc je vais aussi rapidement me présenter. J'étais tout d'abord infirmière puis puéricultrice dans ma formation initiale. Ensuite, j'ai voulu faire de l'enseignement, donc j'ai passé le concours de professeur des écoles. Et après avoir été professeur des écoles, étant donné que j'étais infirmière puéricultrice, je me suis dit, je vais enseigner en secondaire. Ça me laissera, enfin, pour différentes raisons. Et je pensais que voilà, j'allais être travailler avec des jeunes, ça allait bien me convenir. Donc actuellement, je suis professeure en sciences et techniques sanitaires et sociales. J'enseigne en classe de terminale. Et par ailleurs, je suis aussi psychologue. Donc parallèlement, j'ai en enseignement à distance, donc tout à fait en autodidacte avec les cours de la fac et passé l'examen. Enfin, je suis allée jusqu'au master 2 de psychologie. Donc je suis psychologue de l'éducation et du développement. Je vais donc aujourd'hui parler des rapports et de la distance par rapport aux élèves. Et j'ai intitulé cette présentation par engagement, exigence réciproque. Donc, je vais faire passer des j'ai fait un petit plan là, pour les faire passer. Je vous ai fait des photocopies d'éléments qui me paraissent intéressants, de supports qui me paraissent intéressants que vous pouvez garder. Alors, au niveau du plan, ce sera un plan en 6 parties, ou même 7 parties. Je vais un peu introduire le contexte de l'éducation nationale pour voir un peu dans quoi on travaille. Ensuite, je vais vous présenter une situation problème. Par exemple, vous en avez certainement tout plein, une situation problème que j'ai vécue. On va analyser le conflit donc, que j'ai vécu avec cet élève en l'occurrence, et avec des outils, j'allais dire, au niveau psychologique, des outils reconnus par les sciences de l'éducation et aussi par les sciences humaines. Ensuite, je vais mettre en place les postulats de base, que je pense qu'il est important que je vous ai mis dans la photocopie. Je vais traiter le fonctionnement psychique de l'enseignement et des enfants aussi, le métier, les besoins et l'enseignant. Et puis enfin, les différents rapports qui existent entre les élèves et les professeurs à partir d'outils des sciences humaines que je vais vous présenter, notamment d'analyse transactionnelle, parce que j'ai fait une formation en analyse transactionnelle. Aussi les outils de la programmation neurolinguistique et puis d'autres outils. Et ensuite le postulat que les élèves sont capables de changer, notamment dans leur comportement, parce qu'on va surtout travailler le niveau rapport élève, pas forcément rapport au savoir, mais rapport par rapport au comportement qu'on attend. On a entendu qu'on était tout à fait dans une autre logique qu'avant, hein, que l'autorité n'était pas forcément institué, reconnu, parce qu'on était professeur et qu'il y avait plein de parasites. Et donc, on va voir comment on va pouvoir se placer à l'intérieur de ce contexte-là, social aussi. Et voilà. Donc, le contexte de. Oui, alors, je voulais définir d'abord un peu le rapport. Qu'est-ce que j'entends par rapport? J'entends par rapport la relation qu'il y a entre l'élève et le professeur. Alors, quelle est la relation qu'établit l'élève? Quel est le but? Est-ce que la relation va favoriser l'autonomie de l'élève ou va favoriser la dépendance de l'élève par rapport au professeur? Est-ce que la relation va favoriser le désir d'apprendre? Donc c'était autour de cela que nous allons réfléchir. Comment mettre en place une bonne relation? Et la distance? Qu'est-ce que c'est que la distance? Et la distance, ça va être les caractéristiques de la relation. Donc, la distance, ça sous-entend une relation non fusionnelle, une relation non hyperprotectrice, une relation qui va encourager l'autonomie et la croyance de l'élève, je suis capable d'y arriver tout seul. C'est ce qui est normalement, si on arrive à ça, c'est l'idéal. Donc, un élève acteur de sa recherche. Le contexte. de l'éducation nationale. Alors, on a un contexte, on doit boucler le programme. Bon. On a les différentes lois, les règlements, le règlement de classe, le règlement de lycée. Et nous, comment on se situe, dans quelle éthique nous nous situons, quelle éthique nous avons, est-ce que nous voulons faire passer le programme ou plus que le programme en tant que chrétien. Et en plus, on est dans la culture contemporaine qu'on vient d'entendre. Je ne vais pas développer la culture contemporaine. Néanmoins, on est quand même dans une culture ou dans une société qui est en grande mutation, où le travail n'est pas forcément dans l'esprit. On est plutôt dans une société de loisirs, de l'immédiateté, et le travail n'est pas forcément n'est pas une donnée importante. Et en plus, le travail, le chômage, etc. Donc, tout ça, c'est dans la tête de nos jeunes. Ensuite, on a la situation géographique aussi. Le lycée, l'école est situé dans un espace géographique qui n'est pas anodin. Donc, le public fait partie aussi du contexte. Et on a les élèves du lycée, les élèves de l'école. Quand je parle lycée, je veux dire aussi école. Hein. École, ça englobe l'élémentaire, le primaire, le collège, le lycée. Il s'agit de tenir compte. Et on a les élèves de la classe. Et ce qui se passe au lycée ou ce qui se passe à l'école influe sur ce qui se passe dans le lieu de vie de classe. Ça, c'est évident. Et c'est très perspectible. C'est important de le savoir. Donc, on travaille dans ce contexte-là. Et j'aimerais vous partager une situation particulière par rapport à ce rapport, la relation avec l'élève. C'est dans une classe de terminale. Une élève, on faisait un contrôle. L'élève arrivait en retard. Madame, vous me prenez, c'est un contrôle, j'ai déjà pas de notes. Madame, mais j'ai pas fait exprès, le bus n'est pas venu, c'est important cette note. Bon, je l'ai accepté, donc la porte était déjà fermée, j'ai accepté l'élève. Et puis, je lui ai donné le sujet. À la fin, il y avait l'heure qui était passée, je dis bon, maintenant vous rendez le contrôle. « Ah, madame, mais non, mais moi, je suis venue 10 minutes après, je n'ai pas autant de temps que les autres, c'est pas juste. » Voilà. Donc, je me suis retrouvée en conflit, vraiment, entre l'élève qui ne voulait pas me rendre le travail, parce qu'elle n'avait pas autant de temps, et puis, voilà, une opposition. À la fin, elle m'a quand même rendu le travail, en rouspétant beaucoup, mais enfin bon, mais c'était pas forcément si facile que ça. Et là, j'aimerais bien qu'on analyse un peu la situation. Comment se fait-il que... Moi qui étais dans une relation, j'allais dire, j'ai accepté, j'étais sympa, j'ai pris pitié, je l'ai comprise, etc. Et puis après, je deviens la victime de l'élève, en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé et comment j'aurais pu faire autrement? Ou comment peut-on faire autrement dans une situation de ce style? Alors, les facteurs des conflits. En général. Et après, on va voir ici, dans cette situation particulière. S'il y a une faille dans l'organisation, automatiquement, il y aura désordre, il y aura confusion. Donc, l'organisation de la classe, l'organisation de la séance, l'organisation de... y compris l'organisation de l'école dans laquelle on se trouve, ou du lycée. Une faille dans l'organisation au niveau de la direction. Ça va jouer sur les élèves, automatiquement. Ensuite, la réalité de notre présence est parfois difficile à admettre. Ça, il y a des élèves qui ne supportent pas d'avoir quelqu'un devant eux qui veulent leur donner des connaissances. On a le problème aussi de l'éthique qui est brisée, parce que dictée par la pulsion et non la raison. Par exemple, l'autre jour, je suis professeure principale, et donc, j'ai eu un rapport d'un collègue qui, un élève, l'a traité de connard. Voilà, parce qu'il lui a demandé de changer de classe. Et en changeant de classe, l'élève l'a traité de connard. J'ai parlé avec cet élève. Elle m'a dit, mais je ne l'ai pas dit pour lui. J'ai dit, ah bon ? Ben non, je ne l'ai pas regardé. J'ai dit ça comme ça. Je me suis déplacée, et puis voilà. Bon, par exemple. Hein. Donc, elle était... dans la pulsion, elle n'était pas contente de devoir. Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, la perversion qui ne cesse d'augmenter dans les rapports les uns avec les autres. Ensuite, il y a l'effet pervers de l'intention de l'élève et le professeur qui est pavé d'ignorance. Alors, je vais un peu vous donner des outils justement pour que, enfin, j'espère que vous soyez plus attentifs et moins ignorants par rapport au fait de pourquoi il y a d'un coup un conflit avec l'élève, en fait. Et puis l'absence du sens, du bien et du mal, qui suspend vraiment, qui entraîne même une absence de sentiment de culpabilité auprès de l'élève. Et ça, c'est flagrant. Le fait de traiter connard, ça ne posait absolument pas de problème à l'élève parce qu'il n'a pas regardé le professeur. Donc, vraiment. Et quand j'en ai discuté avec la CPE, par exemple, de cette situation, elle m'a dit, mais l'élève a déjà eu une punition. J'ai dit, ah bon? Il a été viré de classe. J'ai dit, ah bon, c'est ça la punition? Parce que le professeur demandait un rapport en plus avec un avertissement de conduite. Elle m'a dit, bon, on ne peut pas cumuler les punitions. Ça, c'est terminé. Une punition, ça suffit. Donc, ça, on a un chef d'établissement qui est très laxiste et les élèves, hier, j'ai fait une heure de vie de classe. Les élèves eux-mêmes ont dit, parce que je leur ai dit, vous continuez comme ça, moi je vais faire un conseil de discipline pour cette situation. Elle dit, mais comment se fait-il quand un élève insulte un professeur qui n'a pas de conseil de discipline? Voilà. Donc, ça, c'est la répercussion de la vie de classe ou la répercussion de la règle et de la loi. La discipline du lycée qui se répercute à l'intérieur de la classe. Et nous, on en subit les conséquences, en réalité. Voilà. En fait, nous, en tant que professeurs, on peut se dire que nul choix n'est vraiment entièrement satisfaisant, parce qu'on est toujours dans une dynamique un peu d'opposition, comme ça. Et il s'agit vraiment de mesurer à partir de quand nous devenons complices des élèves, et à partir de quand nous sommes aveugles. Si vous voyez des téléphones portables là, qui se baladent et que vous n'y dites rien, vous êtes aveugle. Vous devenez les complices. Voilà, par exemple. Hein, des fois, c'est plus facile de ne rien voir que de rentrer en conflit. Mais à force de ne rien voir et de ne pas oser entrer en conflit, la classe complètement disjoncte complètement au bout de quelques semaines. Donc, il s'agit vraiment de voir les tout petits détails dès le début de l'année, en fait. Et au prix de rentrer en conflit, parce que les élèves, de toute façon, sont étonnés. Ah ben, c'est pas possible, on peut pas rigoler, voilà. On peut pas se parler, voilà. Bon, on peut pas aller aux toilettes, et ainsi de suite. Enfin bon, voilà, c'est un peu ce qu'on rencontre. Ensuite, il y a un autre facteur. Donc, dans la situation que j'ai vécue, je pense que j'étais dans la situation effet pervers, hein, de l'élève. Inconsciente, bien sûr, l'effet c'était inconscient, mais son intention était de, voilà, et moi, par mes connaissances enfin, j'ai pas intégré, ou je connaissais les outils, mais je n'ai pas, voilà, maintenant, ce genre de choses ne m'arrivent plus. J'ai pas appliqué, en fait. Alors, la réaction face au conflit, quand on a des conflits en classe, on peut nier. Le conflit, donc on rentre dans une communication superficielle, puis on se dit, il n'y a rien là. C'est pas grave, il n'y a rien là. C'est l'élève, hein. Très souvent. Hier, quand j'ai fait cette heure de vie de classe, pour régler les différents problèmes, notamment ce rapport que j'ai eu du professeur qui a été traité connard, en fait, pourquoi faire tellement d'histoires? Je perds une heure pour rien du tout, il n'y a rien, c'est pas si grave que ça, voilà. Ou bien on supprime, il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, on supprime les problèmes. C'est un peu les temps modernes. Ou bien on minimise, c'est-à-dire on remet à plus tard. On se dit, bon, il n'y a pas de quoi s'en faire. Moi, ce que je vois là, téléphone qui se balade, allez, je vais faire semblant, je minimise. Ou bien après, on sublime en tant que professeur, on peut se dire, ben, c'est le lot des professeurs, je refoule mes émotions. Et puis, entre guillemets, c'est ma croix à porter. Alors, le jeudi soir, à côté de moi, il y a une classe. Ça va être une classe de mes élèves. Moi, j'enseigne auprès d'élèves de filles, donc j'ai des classes de sciences sanitaires et sociales. C'est des classes, par exemple, sur 30 élèves, j'ai un garçon. Donc, les filles sont très, très bavardes. Hein. C'est vrai. Ce sont des classes assez difficilement gérables, pour de vrai. Moi, je suis professeure de la matière qui coefficient 7, donc j'ai tout le temps ces élèves, je les connais bien. Je peux vous dire qu'au conseil, en fin d'année, aucun professeur de mathématiques, de français ou d'autres langues, ne se bouscule pour avoir les classes. Parce que ce sont des classes qui sont difficilement gérables. À côté de moi, le jeudi soir, je ne sais pas quel est le professeur, mais il me fait vraiment pitié. Du point de vue éthique, je ne vais pas voilà, faire quoi que ce soit. Mais franchement, c'est une classe de première que je vais avoir l'année prochaine. Une des deux, enfin, je ne sais pas laquelle je vais avoir. Mais c'est une classe qui n'arrête pas de rigoler. Voilà. Et je suis tutrice d'un professeur qui a peut-être cette classe, peut-être une autre classe, j'en sais rien. Hier, c'était le bazar dans sa classe. Mais il n'en peut rien. Hein. Je veux dire que les élèves ont mené le professeur. Lui, il avait un bon objectif, mais ah monsieur, vous avez dit ça, monsieur, monsieur, voilà, bon, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment difficile la gestion d'une classe. C'est pas facile. Alors, c'est un outil qui est très important, qui explique vraiment pratiquement tous nos problèmes de classe avec les élèves. Ça s'appelle le triangle dramatique de Cartman. Donc Cartman, c'est un psychologue hein, qui a donné le nom à cet outil. En réalité, c'est les flèches, là, ça consiste au jeu de rôle que nous prenons et que l'élève prend. Et qu'on se situe. Donc on se situe soit en tant que persécuteur, soit en tant que sauveteur, soit en tant que victime. Par exemple, quand l'élève est venu toquer pour rentrer, c'était le pauvre victime, c'était une fille, la pauvre victime. Je n'ai pas de notes, j'ai besoin de cette note, je suis en retard, il a plu, je suis tout mouillée. En plus, c'était comme ça, elle était revenue, elle était tout mouillée, il fallait monter 4 étages. Vous n'allez pas me dire que vous allez me refuser, là j'ai monté 4 étages. Et je suis tout mouillée. C'était la victime qui était venue pour se plaindre, et moi j'ai pris pitié. Hein, en tant que je voyais sa note, je voyais, oui c'est vrai, je pourrais, bon voilà, bref, voilà. Et je me suis située en tant que sauveteur. Donc je me suis rendu service. Et automatiquement, quand on rentre dans ce triangle-là, automatiquement, tôt ou tard, vous êtes persécuté par la victime. C'était ce qui m'est arrivé. Et c'est des situations logiques. Alors là, ça s'est fait tout de suite dans la même séance. C'est moi qui me suis transformée en victime. L'élève qui ne voulait pas me rendre sa copie à la fin, qui a fait toute une histoire. Et ce n'était pas facile de m'en sortir. Là, je peux vous dire, c'est pas juste, et ainsi de suite. Enfin, bon. Et ça, c'est automatique. Alors, si vous avez peut-être des conflits en tête ou des histoires en tête, ou chaque fois que vous pouvez vous rendre compte que ça vous tombe, on peut dire, tombe dessus après. Les élèves vous demandent, on a trop de devoirs, on ne peut pas préparer le contrôle qu'on a prévu. Vous dites, OK, d'accord. Après, il y a une grève. Après, il y a plus d'élèves qui sont absents. Après, enfin bref. Après, vous êtes à la bourre, vous devez tout corriger pendant le week-end parce qu'il y a le conseil de classe, et ainsi de suite. De toute façon, ça nous tombe dessus, de toute façon. Donc moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus jamais agréer à la demande. On a trop de devoirs. J'ai décidé d'un contrôle, on le fait. J'ai aussi décidé de ne plus jamais accepter de retard. Quand la porte est fermée, c'est terminé. Les excuses sont toujours bonnes, les élèves le savent, mais je refuse. Comme ça, c'est. Parce que si on accepte une fois, ben après, on a à nouveau tout le monde contre nous. Victime, sauveteur, persécuteur. Ça, c'est le jeu systématique. Alors, c'était donc pour analyser un peu les situations, les conflits. Je me base sur des postulats. Le postulat, là, vous les avez sur votre photocopie. J'estime que l'être humain est une personne de valeur, donc je veux voir chaque élève comme une personne de valeur. Alors, je pense que ça, c'est important si dans notre tête, on se dit ça, que l'élève est une personne de valeur. De plus, il est l'auteur de la direction de sa vie et qu'on n'a pas à prendre en charge les retards qu'il a, etc. Les devoirs non faits et toutes ces choses-là. Ce n'est pas à nous. Il est l'auteur de sa vie, de la direction de sa vie. Il est l'auteur de ses changements, de ses apprentissages, de sa créativité et de sa mémoire. À lui de travailler. Ensuite, l'élève possède un potentiel intellectuel étonnant. Il s'agit de croire ça aussi. Même les élèves qu'on croit les plus faibles, ils se mettent comme ça parce qu'on leur a donné l'étiquette. Mais très souvent, si nous, on leur change l'étiquette, ça change beaucoup de choses aussi. autre chose, qu'il existe toujours des options favorables à tout problème. Ça, c'est, j'appelle des options, pas forcément des solutions, vous voyez, c'est pas la même chose. Un choix qu'on fait par rapport à une situation, qui n'est pas forcément le meilleur choix, mais c'est un choix. Et les apprentissages se font dans le cadre de relations et d'interactions avec les autres, avec l'environnement, et donc pas seulement avec le professeur. Et on a vu tout à l'heure que les élèves apprennent entre eux. Donc pouvoir les faire travailler en groupe, c'est une très bonne méthode d'apprentissage. Et puis, un dernier postulat, ce sont que les comportements sont les manifestations extérieures des systèmes de pensée et de sentiments. C'est-à-dire que le comportement des élèves que nous avons, en fait, c'est le signe de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas forcément le comportement qui est à prendre en compte, mais c'est aussi, de temps en temps, leur dire « j'aimerais bien vous parler ou te parler à la fin de l'heure, parce que j'aimerais comprendre ce qui se passe. » Voilà. « J'attends autre chose de toi. Je suis sûre que tu es capable de décider. Changer de classe, j'aimerais pas le dire. Toi, tu peux le faire toute seule. Tu décides. » Et ainsi de suite. Responsabiliser l'élève afin qu'il soit acteur de son changement, de disposition et d'attitude dans la classe. Alors, on va voir un peu la personnalité. Alors, vous voyez, je ne suis pas très douée hein, pour les diaporamas. Et en réalité, on a les élèves et nous. Hein, c'est un tempérament et un caractère. Alors, le tempérament, ce sont les caractéristiques biologiques et psychophysiologiques. Donc, c'est l'hérédité, le système endocrinien, etc., qui détermine nos comportements. Le caractère, par contre, c'est l'ensemble des dispositions et des attitudes qui ont été apprises durant l'éducation. Et ce sont des comportements et des réactions par rapport aux différentes relations sociales. Soit on est conciliant, soit on est intransigeant. Et chacun d'entre nous, on doit travailler ça. Très souvent, les professeurs ont des tempéraments un peu particuliers. Très souvent, on est assez intransigeant. C'est très difficile. Alors, quand on est intransigeant, c'est des fois trop dur. Alors, c'est difficile de savoir en quoi je dois être intransigeant et en quoi je peux lâcher du lest. Ça, c'est très difficile. C'est tout. Parce que si on lâche du lest, on risque de rentrer dans le victime, sauveteur, persécuteur, ou du moins d'être dans la situation de sauveteur. Donc il s'agit vraiment de se dire, est-ce que là je ne suis pas en train de déroger une règle que je me suis fixée moi-même ou une règle que j'ai fixée auprès des élèves? Et si cette réponse est oui, c'est que là vous êtes dans le sauveteur et que là vous devez rester dans l'intransigeance. Si c'est non, vous pouvez être dans la conciliation. Mais par exemple, en début d'année, j'étais dans la conciliation du style « vous avez manqué un contrôle, vous étiez absent, je vous laisse libre de décider quand vous voulez refaire ce contrôle dans la semaine qui suit. » Voilà, c'est-à-dire pas forcément le premier jour quand vous revenez, en pensant qu'ils étaient malades, et puis quand on a de la fièvre, on n'a pas le temps de reprendre. Et bien, je suis coincée par cette petite règle que j'ai fixée. Là, j'étais conciliante par rapport à l'année précédente. Parce que hier, j'avais une élève qui m'a dit « ah, madame, elle m'avait dit qu'on était libre de choisir. » Alors j'ai dit oui, mais vous, je ne vous vois jamais. Et là, je vous vois, donc je vous donne. Une élève qui est tout le temps absente. Donc elle a un peu rouspété. Et j'ai dit, ça sera comme ça. C'était, vous voyez un peu, j'étais une petite règle assouplie, d'un peu de liberté pour favoriser qu'ils aient des bonnes notes. Et en fin de compte, j'étais quand même coincée par cet élève-là. Donc l'année prochaine, je vais revoir cette règle, je vais un peu plus l'édulcorer dans un cadre plus précis. Il s'agit de prendre chaque fois que vous avez comme ça un dysfonctionnement, vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place l'année prochaine, parce qu'une fois que l'année est faite, on peut toujours changer même en cours d'année, pour que je n'ai plus ce dysfonctionnement. Il s'agit vraiment de réfléchir aux conséquences et fixer le cadre. Donc aussi, les dispositions et les attitudes, il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres, il y a des jours où on a mieux préparé que d'autres. Les élèves le sentent. Une transparence, ça peut aider aussi, quand les élèves voient qu'on n'est pas tout... Voilà. Qu'on est humain, ça permet aussi d'avoir une maîtrise de la classe, contrairement à ce qu'on croit. C'est un peu ça aussi, toute la relation qui joue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier d'enseignant? Alors, le métier d'enseignant, il y a les qualités, puis les risques qu'on a inconsciemment au fond de nous. Alors, les qualités, c'est qu'on a la capacité de transmettre un savoir. Et on a une grande capacité de faire des recherches, parce qu'il faut préparer dans les livres, sur Internet, dans les sites, etc. Des capacités de préparation. Et pour chaque qualité, il va y avoir des risques, en fait. Alors, la capacité de transmettre un savoir, la peur que nous pouvons avoir, c'est la peur de mal transmettre, d'être mal perçu. Et on peut avoir une difficulté de se remettre en question. Et je pense que c'est au contraire une très grande richesse si on a une capacité de se remettre en question. Dans le sens, un peu comme je disais, quand on sent un conflit, de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire aussi? Moi, j'aime bien l'idée 50-50. 50% le professeur, 50% les élèves. Mais on n'a pas tous les 100%. Voilà. Donc, cette notion de 50%. Ensuite, en préparant beaucoup, on peut être vraiment saturé et on risque de délaisser nos loisirs, nos lectures personnelles, la culture personnelle, etc. Et ça, je pense qu'il faut veiller vraiment à notre équilibre personnel. Parce que si on passe 60 heures à préparer et qu'on n'a plus de temps personnel ou familial, ça va se sentir aussi au niveau des élèves. Donc, il s'agit vraiment de. Et c'est pas facile. Moi, je sais que quand j'ai débuté, je ne faisais que ça. Franchement, je devais travailler bien 50 à 60 heures. De toute façon, je faisais que ça. J'allais surveiller les enfants à la piscine, j'avais mes préparations. J'étais dans le train, c'était avec des préparations. J'allais voir ma mère en prenant le train, je faisais des corrections. J'attendais chez l'orthodontiste avec des corrections. Voilà. Là, ça ne peut pas durer 2 ans ou 3 ans, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible. Alors, pour toujours le métier d'enseignant. On a avoir un bon acquis. Donc, on a une bonne connaissance du milieu professionnel. Alors, ça s'acquiert. C'est pas quand on est à l'UFM, ça n'existe plus, ou en Master 2, qu'on a une bonne connaissance professionnelle. Les techniques pédagogiques, ça s'apprend au fur et à mesure, hein, si on réfléchit sur sa pratique. Ensuite, le risque, c'est de rester sur son acquis, de ne pas bouger. Parce on est un peu dans la lassitude, la peur des autres, le risque d'incompréhension vis-à-vis des autres adultes, des autres milieux professionnels, parce qu'on a beaucoup de vacances, etc. C'est pas évident. Et la rigueur professionnelle, c'est aussi un avantage qu'on a, et le désir de toujours mieux faire. En général, on a ce genre de qualité au fond de nous, d'une manière instinctive ou naturelle. Et le risque, c'est qu'on peut rentrer dans un perfectionnisme et une intransigeance vis-à-vis de soi, avec même de la culpabilité de mal faire. Et je peux vous dire, je pense que si vous êtes dans cette situation de culpabilité de mal faire, c'est que vous faites vraiment très bien votre cours. Parce que sinon, vous n'auriez pas cette culpabilité. Donc c'est sûr que vous faites bien votre travail.
Et si on ne se sent pas coupable?
Vous êtes détaché de ce problème et certainement vous faites bien votre travail aussi, j'en suis convaincue. Mais je le dis souvent, parce que les collègues, très souvent, je ne sais pas si je fais bien, etc. Je veux dire, bon, il s'agit quand même d'être un peu bon avec soi-même. C'est important d'être bon avec soi-même. Je crois que quelqu'un voulait
Oui, parce
intervenir.
qu'à l'excès de la culpabilité, on est mort qui perd, c'est-à-dire que
Oui.
on est toujours
Tout à fait.
à renouveler les choses et on n'avance pas, quoi.
Ah, tout à fait. Donc il s'agit de le prendre positivement, il faut se dire, voilà, j'ai loupé quelque chose, sans se culpabiliser, se dire, ben voilà, j'ai loupé, je ne suis pas satisfaite, eh ben, comment je ferai la prochaine fois que je ferai cette séance? Et puis, voilà, ça fait partie de notre travail. Pour continuer sur le métier d'enseignant, on doit avoir beaucoup de patience. Cette patience peut de temps en temps manquer. Et puis, on a une grande capacité de contrôle de soi face aux enfants. On ne peut pas tout faire n'importe comment. Donc, on a une certaine retenue et qui est des dépenses énergiques énormes. C'est pour ça qu'on est fatigué quand on sort de classe. Parce qu'en fin de compte, c'est une dépense énergique énorme de devoir être animateur, garant de l'autorité, garant de l'apprentissage, garant du silence, garant du travail des élèves, on sort vraiment fatigué parce que nerveusement, le cerveau a tout ça, il doit gérer tout ça. Donc c'est vraiment un travail qui est quand même particulier. Le risque de projection agressive. On peut tomber dans l'excès, hein, parce qu'il y a des fatigues accumulées et des refoulements qui n'ont pas été exprimés. C'est pour ça que les groupes de parole entre des professeurs est très important. Moi, je sais, quand j'ai débuté en élémentaire, je faisais partie d'un... Le soir, je partais dans un groupe de parole qui s'appelle... J'ai amené des manuels, des livres, la pédagogie institutionnelle. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec la pédagogie institutionnelle en élémentaire, c'est-à-dire on institue toutes choses. Pour ça, j'ai un peu de facilité. Je fais ça aussi au lycée, de manière sans utiliser les termes, mais bon. Et donc... J'avais une classe de perfectionnement, donc une classe d'adaptation avec des élèves, je ne savais pas ce que c'était, hein, je venais d'avoir le concours. Et je pensais, c'était des élèves qui avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans. Je me suis dit, bon, ben, ils apprennent à écrire ou à lire. Enfin, je pensais bien qu'ils n'avaient pas le niveau de CM2, mais en fait, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et ça, je ne savais pas quand je suis arrivée en classe. Ils ne savaient même pas s'orienter dans l'espace, dans le temps. Alors, j'étais vraiment plus que perdue. Alors, j'avais un collègue qui travaillait avec moi, on a fait du jardinage, etc. Mais ce groupe de supervision, ça s'appelle comme ça, c'était un groupe de supervision, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc j'ai instauré la pédagogie institutionnelle et petit à petit les élèves ont commencé par apprendre à gérer le temps, l'espace, etc. Une autre qualité du métier, c'est la méticulosité, la rigueur, l'organisation face aux enfants, l'esprit critique, l'attention toujours en éveil. Et puis bien sûr le risque, c'est de tomber dans l'esprit critique systématique. C'est-à-dire que quand on fait nos bulletins, à la place d'être positif, on va rester dans le négatif. Pourrait mieux faire, toujours des phrases négatives. Si vous réfléchissez un peu, je ne sais pas comment vous faites vos bulletins, mais en réalité, on est très souvent dans le négatif. Quand vous faites des corrections de copies, manque ceci, l'analyse non faite, etc., etc. Donc l'élève est tout le temps dans une information négative. Et il ne voit pas qu'est-ce qu'il devrait faire pour améliorer. Donc, la possibilité d'envisager les évaluations d'une autre manière, les remarques qu'on fait sur les contrôles, les remarques qu'on fait dans le bulletin, d'une manière positive, même s'il y a du bavardage, on peut construire nos phrases d'une manière positive. Et ça va changer la dynamique de classe aussi, parce que les élèves après lisent et se rendent compte. Et les devoirs aussi. Par exemple, en mettant en voie d'acquisition, ça permet aussi de dire, à la place de dire non compris, on peut dire en voie d'acquisition ou non acquis, c'est moins négatif, mais il y a toujours quelque chose d'acquis. Donc c'est en voie d'acquisition, c'est toujours juste, même si c'est 1% en voie d'acquisition, mais il y a quand même quelque chose en voie d'acquisition systématiquement. Et je pense que c'est bon d'être positif dans nos appréciations. Donc, voilà. Et puis si vous allez dans la salle des professeurs, vous entendez toujours des remarques négatives systématiquement. Et on est quand même dans cette culture du négatif et de la critique. Et je pense que, enfin, j'aimerais vous proposer, vous encourager à changer de culture et entrer dans une culture du positif, comme l'était Jésus. Jésus, il était dans une culture du positif. Et nous, en tant que chrétiens, rentrons dans une culture du positif aussi. On a aussi la capacité et les obligations de dominer un groupe. Et bien sûr, le risque est de passer de l'autorité à l'autoritarisme. Donc, de vouloir diriger, statuer, et on va le trouver dans la manière de noter, etc., et la manière d'être. Alors, c'est tout simplement les propos et les mots qu'on dit qui changent tout entre l'autorité et l'autoritarisme. Et souvent, on verra ça tout à l'heure, comment on peut faire pour ne pas rentrer dans l'autoritarisme. Ensuite, les besoins. Alors, les besoins ici, ce sont les besoins qui sont donnés par un psychologue qui s'appelle Maslow. Peut-être vous connaissez ses besoins. Ça s'appelle la pyramide de Maslow. Elle est utilisée en sciences sociales, en sciences humaines. Elle est utilisée aussi pour le monde du commerce. Voilà. Et nous, on a aussi ces besoins, comme les élèves. Donc, les besoins physiologiques, c'est la base de la pyramide. Les besoins de sécurité, le besoin d'amour, c'est le besoin de reconnaissance, par exemple. L'élève a besoin de reconnaissance. Et pour pouvoir faire des progrès, il a besoin de reconnaissance. Et je pense que, moi j'ai des enfants un peu plus âgés, je pense que ce qui manque beaucoup auprès des professeurs et des enseignants, c'est la reconnaissance de, des petites choses qu'ils font. Le zéro est très vite donné, même s'il y a trois mots, le zéro, ça se discute, enfin à mon avis. Voilà. Quand moi j'avais ma fille qui m'a dit, qui a lu ses bulletins quand elle avait 17 ans, elle m'a dit, il était assez positif, ou, enfin bon, pour moi j'ai toujours dit, mais tu travailles bien, elle avait tout à fait une autre image en fait, elle avait l'image qu'elle était nulle, et ça elle a poursuivi toute sa vie, et encore maintenant ça poursuit, et elle se bat contre ça. Et ça, ça n'a pas été induit par la maison, ça a été induit par les remarques du bulletin, parce que elle était dans un établissement privé. Dans cet établissement privé, c'était que les meilleurs qui pouvaient passer en S parce qu'il faut 100% de résultats. Ensuite, les autres en L pour avoir 100% de résultats. Et ensuite, en ES pour avoir 100% de résultats. Elle, elle avait 12 de moyenne, donc ce n'était pas suffisant. On ne risquait pas de passer en seconde avec 12 de moyenne en troisième. Elle a été mise en technologique et là, elle a conclu qu'elle était nulle, tout simplement. Comme quoi, l'enseignement privé n'est pas forcément bénéfique, parce que si elle avait été en public, elle aurait continué normalement, elle aurait eu un bac, je ne sais pas lequel, mais voilà. Mais voilà, donc le besoin de reconnaissance est quelque chose de très important, et c'est aussi dans nos notations, et dans nos remarques, et dans nos évaluations écrites. Le besoin d'estime de soi, ça entraîne, et d'actualisation. Alors l'actualisation, c'est de pouvoir créer des choses, de pouvoir être acteur de sa formation, de pouvoir présenter un diaporama aux élèves, de faire un travail en équipe et de montrer quelque chose d'intéressant au groupe classe, on peut rentrer là-dedans. Alors l'enseignant, j'ai un peu marqué différents mots-clés, j'ai pensé mettre l'enseignant, il est pédagogue, alors ça va être la forme, dans le sens de sa stratégie, ses méthodologies pour les apprentissages, c'est-à-dire apprendre à s'entraîner. Il doit aussi être animateur pour apprendre à découvrir. Et il est aussi éducateur, dans le fond, pour transmettre les directives du programme. Puis nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut amener plus que le programme, justement, par notre manière d'être, notre manière de faire, et notre langage, notre paralangage, notre regard. Voilà. Parce que les élèves lisent beaucoup dans le regard. Même si eux ne nous regardent pas, moi mes élèves, je vais parler de ça parce que moi j'ai des terminales, mais quand je suis à la porte et je leur dis bonjour, le regard, il n'y a pas de croisement de regard. Le regard, c'est dangereux. J'en ai discuté l'année dernière avec ma classe, je dis mais je me rends compte que vous ne me regardez pas quand je vous regarde individuellement, quand je vous accueille. Et là, ils m'ont dit mais madame, regardez, c'est risqué. Je dis mais c'est risqué quoi ? Mais c'est risqué d'offenser l'autre. J'ai dit, vous m'offenserez si vous me regardez. Et là, c'était le silence. Donc voilà, hein, c'est la culture de la cité. Là. Je travaille en cité. Voilà. Mais au moins, je l'ai entendu, au moins, j'ai compris. Maintenant, bon, ben, j'accepte qu'on ne me regarde pas. C'est la culture. Voilà. Par contre, j'instaure une autre manière de me dire bonjour. Les élèves restent debout, en silence, et on se dit bonjour de cette manière-là. Si je ne peux pas croiser de regard, eh ben moi je veux quand même avoir un bonjour officiel. Eh ben ça sera d'une autre manière. Donc je me suis trouvé une stratégie qui existe certainement au collège, mais qui n'existe plus au lycée. Au lycée, on s'assoit puis on bavarde. On ne sort même pas les affaires. Voilà. Donc, l'enseignant, qu'est-ce que c'est que enseigner ? Donc, enseigner ne se fait que dans la relation. Alors, vous avez vu là tout à l'heure, on a entendu que l'enseignant, alors là je me situe en tant qu'enseignant, enseigné dans la relation. Mais quand on est la nouvelle mode d'enseigner par Internet, on est dans une autre forme de relation, on n'est plus dans la relation visuelle en fait. Hein. Enfin visuelle mais autrement, du moins pas frontale. Voilà. Mais, donc tout ça, ça va évoluer. Hein. Le devoir de transmission, il se fait, et il est à assumer, sinon on va avoir l'impression de trahir. De trahir, on se trahit envers soi-même, on renie ce que nous sommes, et ça va être une faute symbolique. Donc on sent cette obligation de transmettre. Alors là, il y a toute la question, qu'est-ce que c'est que transmettre ? Est-ce que c'est forcément frontal? Est-ce que ça peut pas être autrement? Enfin, c'est notre premier rôle, on doit transmettre, enfin du moins, l'élève doit avoir acquis quelque chose de nouveau à la fin de l'année. Voilà. De quelle manière? Ça, c'est une autre question. On a une fonction de pouvoir qui est corrélée avec celle du savoir, qui tend de diminuer, hein, parce que maintenant, le savoir, c'est plus seulement le professeur qui en est le dépositaire. Avec les outils Internet, etc., on est très limité, on diminue vraiment dans notre, j'allais dire, dans la représentation qu'on fait. On ne détient pas le savoir. On est en fait aussi dans une dialectique entre le désir de connaître et le désir de dominer. On est, même si c'est inconscient, mais le travail de professeur, à quelque part, ça fait partie de nos personnalités, sinon on ne ferait pas ce métier. Il y a quelque chose là-dedans. Et puis aussi, entre la passion du savoir et le pouvoir. Alors là, on retrouve un peu le jardin d'Éden, le conflit entre le savoir et le pouvoir. Adam et Ève qui voulaient savoir ce qui se passait et que, voilà. On est là-dedans, hein, ces conflits-là, qui sont intrapsychiques et qui sont importants dans notre fonctionnement, en fait. Alors, on va commencer la partie « Quel rapport et quelle distance entre l'élève ?» Je vais vous donner d'autres outils un peu... Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais je pense que c'est tout à fait accessible. Je vais travailler sur les bases éthiques. Alors, on peut avoir l'éthique de la conviction qui s'articule avec l'éthique de la responsabilité. En fait, ça veut dire que la conviction de la nécessité de transmettre est soumise au sens de la responsabilité. Si on arrive à se mettre ça dans la tête, on a la nécessité de transmettre, mais l'élève, lui aussi, a la responsabilité de faire sa part. Sinon, on ne peut pas. Et ça nous permet aussi de lâcher prise. Je veux dire, l'élève qui ne réussit pas, s'il ne fait pas sa part, j'en suis pas responsable. Et ça permet aussi de nous déculpabiliser par rapport aux résultats de 6e ou de CM2 ou de n'importe quelle classe, du lycée, du bac, parce que maintenant, on est à tout est fait sous statistiques et puis il y a les résultats. Chez nous, s'il n'y a pas assez de résultats, c'est fermeture de poste, hein, c'est fermeture de classe et de poste. C'est les meilleurs lycées, même dans le public, il y a 14 fermetures de poste, 14 fermetures de classe dans ma discipline, dans la région où je suis. Mon lycée n'est pas concerné, mais heureusement. Mais je veux dire, tous les lycées à côté, ils sont concernés. Et c'est une histoire de résultats au bac. Fallait avoir 80%, enfin bon, on est comme dans le commerce, hein, résultats, voilà. Pourtant, on a affaire avec des humains. On n'a pas affaire avec de la matière. On a toujours le devoir de transmission qui implique des exigences et des obligations à honorer vis-à-vis de l'élève et de l'éducation nationale. Il y a ça qui fait partie. L'important est de pouvoir être pour les élèves des figures fiables, dont la parole et le paralangage, et là le paralangage c'est les gestes, mais surtout le regard, la vue, soit en adéquation, qui n'est pas de regard avare, haineux, menteur, etc. Qu'on soit quelqu'un vraiment de fiable. Quand on dit quelque chose, qu'on le fasse, et si on oublie, parce qu'on peut être, on peut avoir oublié, qu'on s'excuse. Je pense que c'est important de s'excuser. Parce qu'en plus, on transmet notre savoir, on transmet ce qu'on doit transmettre, on fait acquérir des connaissances, mais en plus, on a notre humanité qui a été régénérée par le sang du Christ. Et ça, sans que les élèves le sachent, voilà. Et l'élève lui-même doit subir, doit assumer, ça serait mieux dit, les conséquences de ses actes. Et ça, je pense que ça peut nous aider. Il arrive en retard, qu'il assume les conséquences, il manque le cours. Et c'est sûr, plus qu'il manque le cours, plus que moi qui va réussir, mais là, je dirais, lâchons prise. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, sinon on n'y arrivera jamais. Enfin, moi, je parle pour moi, je suis en terminale. Et en fin de compte, j'ai vu, début de l'année, ils ont compris qui j'étais, que je fermais la porte et que je n'acceptais plus personne. Là, ils sont en train de courir pour arriver avant que la porte ne se ferme. C'est ma collègue qui m'a dit ça. Je dis, c'est bien. Si c'est ça, c'est très bien. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on en a discuté avec la classe. Et voilà. Donc, le cadre éthique de la responsabilité, le cadre éthique de la conviction. La responsabilité, ça englobe la connaissance que nous avons, notre clairvoyance. Alors, on a aussi l'Esprit de Dieu qui peut nous donner la sagesse à partir des outils qu'on peut avoir. Le courage, on se réfère à la loi. Il y a un règlement intérieur de la classe, du lycée, du collège, de l'école. Et aussi, toujours penser que l'élève doit assumer les conséquences de ses actes. Et ça, ça permet vraiment de nous décharger de nos responsabilités et de nous déculpabiliser, de se dire, ça c'est l'élève, c'est pas moi, moi j'en suis pas responsable. Voilà. Et les mots clés par rapport à l'éthique de la responsabilité, ça va être les valeurs telles que la responsabilité, telles que la justice, telles que l'équité, telles que la loyauté, la persévérance et l'honnêteté. Que ce soit pour nous ou pour les élèves. Ce sont les mots-clés. Et l'éthique de la conviction, ça renvoie plutôt à nos devoirs et à leurs conséquences si on ne s'en occupe pas. Par exemple, ça va être tous les principes idéaux que nous avons, qui ne sont pas forcément raisonnés, qui ne sont pas forcément sensés et qui ne sont pas forcément valides ou légitimes. Et ça, il s'agit des fois de les bouger, de les mettre en réflexion. Bon, on a l'histoire d'Antigone, par exemple, qui transcende l'ordre du roi. Donc ça, c'est vraiment l'éthique, la conviction. On est convaincu que c'est comme ça que ça doit se faire, et puis on ne veut pas déroger. Et ça, il s'agit d'être assez souple dans ce sens-là, parce que très souvent, on quitte l'éthique de la responsabilité et on va imposer des choses qui ne sont pas forcément légitimes, tout simplement parce que ça va nous enlever la sécurité, à quelque part, que d'être un peu plus souple. Alors, c'est pas facile, hein. D'abord, il faut être rigoureux, après. Voilà. Alors, le carré éthique, c'est un outil qui peut vous aider pour prendre des décisions. Par rapport à quand vous êtes en conflit et qu'un élève vous demande quelque chose et que vous n'avez pas forcément tout de suite la réponse, savoir quoi faire. On se base sur la situation. Par exemple, situation. Par exemple, mon exemple là, l'élève est tout mouillé, monte 4 étages, n'a jamais eu de contrôle ou juste une note sur les 4, c'est le dernier contrôle du trimestre. Ok. Mais la situation, c'est aussi, j'ai fixé une règle de classe, quand on arrive en retard, la porte est fermée, je prends personne. C'est aussi la situation. Quelle situation je vais me donner la priorité? Est-ce que je donne la priorité à ce que je vois l'élève qui me fait pitié, ou est-ce que je donne la primauté à la loi, à la règle qui est connue et qui doit être normalement mise en pratique, exécutée. Vous voyez ? Donc là, c'est la situation. Et dans la situation, il faut toujours mettre en avant la loi. Hein, la loi que j'ai mis en dessous, là. Vous ne pouvez pas traiter la situation sans traiter la loi, c'est-à-dire le cadre que vous êtes fixé. Sinon, la situation, ça va être l'apitoiement, systématiquement. Donc il s'agit toujours de croiser la situation à la loi, je dis la loi de manière générale, hein, que ce soit la règle du lycée, de l'école, du collège, de la classe, etc. Et vos règlements intérieurs. Ensuite, il s'agit de voir quelle est l'intention derrière, la motivation. Parfois, quand on voit la motivation derrière, par exemple, moi les élèves n'ont pas le droit de sortir, je les ai 2 heures en cours, on n'a pas le droit de sortir pendant l'intercours. Et on n'a pas le droit d'aller aux toilettes donc non plus. Ça fait partie de la règle. Néanmoins, cette règle, des fois, je sens, j'en suis convaincue, qu'il y a un besoin très impérieux. Des fois, il y a même des élèves qui me disent « Madame, j'ai pas été aux toilettes, certainement j'aurais besoin d'aller aux toilettes pendant les 2 heures. » Là, j'estime que l'élève a anticipé son besoin et je vais l'autoriser. Et d'ailleurs, voilà. Motivation, quelque part, l'intention. L'intention, ce n'était pas de déroger à la règle, c'était de... Mais après, il s'agit aussi de se dire, ils n'en profitent pas pour aller téléphoner rapidement. Non, c'est pas évident. Donc là, je suis en train de me dire, peut-être l'année prochaine, je vais demander, dès qu'on sort de la classe pour aller aux toilettes, qu'on dépose le téléphone portable, par exemple. Vous voyez un peu ? Il s'agit de... Voilà, quelle est l'intention là derrière ? Je veux bien croire. Prime abord, je fais confiance aux paroles de l'élève. Quoique je sais très bien qu'ils inventent plein de choses, mais voilà. Hier, il y a un élève qui est arrivé. Ah, madame, j'ai mal au ventre, je peux y aller. Je dis, bah, si vous partez, je ne vous accepte pas parce que vous serez en retard. Elle est rentrée en classe. Elle m'a dit, j'irai alors dans une heure. J'ai dit, soit, si vous avez toujours mal. Au bout de 2 heures, elle était toujours en classe, elle n'est pas sortie. Avait-elle mal au ventre? Je n'en sais rien. Je l'ai appelée à la fin de l'heure, enfin à la fin des 2 heures, elle m'a dit, ah mais moi, le ventre est parti. Bon. Voilà. Vous voyez un peu, c'était sa responsabilité, elle pouvait sortir. Alors des fois, pendant la pause, les élèves me disent, madame, je dois vite aller aux toilettes, vous allez me prendre après? J'ai dit, si la porte est fermée, je ne vous prends plus. À vous de prendre les responsabilités. Voilà. Je ne me situe pas en sauveteur et je leur renvoie ses responsabilités. Puis alors, elle décide. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle décide, j'en sais rien, mais elle décide. Les conséquences, c'est que les élèves doivent connaître les conséquences systématiquement de leurs actes, de leurs choix. Et les conséquences, normalement, sont données. Et donc, il s'agit pour nous toujours de réfléchir. Qu'est-ce que ça va impliquer? Et l'élève doit connaître. Comme ça, il peut décider. Parce que quand l'élève connaît les conséquences, ça devient assez, assez facile, en fait. Et puis, pour nous aussi, par exemple, un téléphone portable qui ne veut pas être rendu, la conséquence, c'est que je fais un rapport directement. Mais un rapport au chef d'établissement. Donc, on a envie de rendre le rapport. On a envie de rendre le téléphone. Donc, c'est très important que tout ce carré éthique soit connu et de nous et qu'on l'applique. Surtout qu'on l'applique. Alors, c'est très usant de faire des rapports parce qu'on en a marre de faire des rapports. Mais si on en fait une, deux fois, trois fois et que les élèves voient que vraiment on met en application, après, on a assez la paix quand même. Voilà. Donc, ça, c'est une réflexion sur l'intention des élèves et de voir un peu les conséquences. Un autre outil, c'est le triangle d'autonomie de Dekoninck. C'est la règle des 3 P. En fait, dans la classe, et ça c'est la pédagogie institutionnelle que j'appliquais beaucoup en élémentaire, c'est la règle des 3 P, c'est-à-dire que si on fait un cadre de classe dans la protection, qu'on donne un cadre, la protection c'est le cadre qu'on va donner dans la classe. Le cadre c'est appelé la protection. Si, par ailleurs, on donne aussi un peu de permission, comme par exemple ce que je viens de vous dire, vous avez l'autorisation d'aller aux toilettes, mais si c'est fermé, c'est fermé, mais j'autorise. Voilà. Ça va donner la puissance, en fait. La puissance, ça veut dire la puissance de faire, la puissance d'être, et ça va être la puissance aussi du respect. Là-dedans, il y a un cadre assez... je peux faire là, je suis en sécurité, je peux y aller. Et pour l'élève, et pour nous. Et pour nous. C'est pour ça qu'il est très important, ces 3 P, de protéger par un cadre qui n'est pas trop rigide, pour lequel on a toujours réfléchi aux conséquences naturelles par rapport à la loi. On permet des choses dans un cadre aussi précis. Et ça permet donc, ça permet de jouer sur la liberté et la responsabilité en fait. Simplement. Un autre outil, ce sont les signes de reconnaissance. Nos élèves ont besoin de signes de reconnaissance. Ils en ont très peu. Il faut vous dire que durant toute leur scolarité, ils en ont eu très peu. Il y a quatre catégories de signes de reconnaissance. Le signe de reconnaissance inconditionnel positif. Je t'apprécie, par exemple. Le conditionnel positif. Tu as été active pendant tout le cours. Je suis contente de toi. Par exemple, un élève qui bavarde tout le temps. Aujourd'hui, j'ai vu que pendant 10 minutes, tu as pu rester tranquille. Je suis vraiment content. Je suis sûre que demain, ça pourra être 15 minutes. Et ça peut être après 20 minutes, une demi-heure, etc. Parce que nous, on a l'habitude de crier ou de parler à ceux qui bavardent. Ne jamais dire tous ceux qui restent tranquilles, parce que ceux qui bavardent, ils sont peut-être 5 ou 6 sur 30 élèves, ou 10, pardon. Et on fait référence à ceux qui bavardent et on oublie tous ceux qui ne bavardent pas. Et on sait, en sciences humaines, que l'élève et tout être humain a besoin de se faire remarquer pour montrer qu'il existe. Et si on se fait remarquer seulement quand on bouge, eh ben, ils ont gagné. Et si on se fait remarquer quand on ne bouge pas, eh ben, vous risquez d'avoir une autre ambiance de classe. L'inconditionnel négatif, je ne t'apprécie pas, bien sûr c'est à proscrire à 100%, ça c'est évident, mais bon, c'est pour les signes de reconnaissance. Et le conditionnel négatif, je suis mécontent de toi car tu n'as pas appris ta leçon. Voilà. On a le droit de dire. Parce que l'élève a quand même un lien affectif avec le professeur. Hein. De temps en temps, il travaille pour le plaisir du professeur. Ça dépend les relations qu'on a, mais il y a ça aussi. Hein. Donc il s'agit de jouer avec cela. Et j'ai mis les quatre verbes, savoir demander, savoir recevoir, savoir refuser et savoir donner. Et moi, je mets la liberté dans la conjugaison de ces quatre verbes. La liberté de nous en tant qu'individus. Si on sait demander, si on sait recevoir, si on sait refuser et si on sait donner. D'une manière équilibrée, alors il y a des tests qui se font entre les quatre verbes et puis ça donne des nuages. Et selon les nuages, on peut se dire « Ah, moi je suis tout le temps dans le donner, moi, je suis tout le temps dans le recevoir, ou je suis trop dans le refus. » Et là, on peut travailler sur soi. Quand on arrive à avoir un nuage équilibré au centre, c'est signe qu'on est équilibré dans les quatre verbes. Et ça, c'est la liberté, en fait. Enfin, ça, c'est ma définition de la liberté au niveau des sciences humaines. Un autre outil, c'est les cinq drivers. Ça, c'est un outil d'analyse transactionnelle qui est très fort chez les professeurs. Enfin, on induit ce genre de choses d'une manière consciente ou inconsciente. Les parents aussi, hein, sur la manière de penser sur soi. Alors, chacun, on a quelque chose de ça en fond de nous, les élèves aussi. Est-ce qu'ils ont le fait plaisir, l'élève ? Est-ce qu'ils sont dans le fait des efforts ? Ça, j'entends souvent des professeurs, hein, mais fais des efforts. Les parents, mais fais-moi plaisir. Même si ce n'est pas dit, mais c'est... Sois fort. Hein, tu dois réussir, sois fort. Sois parfait. Aucune erreur. Toujours, les parents... L'élève vient avec 15, l'enfant vient avec 15, c'est pas suffisant, il faut qu'il ait 18. Professeur aussi, des fois. Dépêche-toi, c'est pas fini. C'est des phrases que vous pouvez dire. Alors ça s'appelle des messages contraignants. Vous avez compris que c'est des messages à ne pas dire. C'est-à-dire des messages contraignants, même si c'est dit ou pas dit, ou si c'est vécu. De toute façon, les enfants, les élèves l'ont dans leur tête, déjà par leur éducation. Et si nous, on pouvait ne pas les exprimer, ça serait... pas mal. Le dépêche-toi, il n'y a pas besoin de dire dépêche-toi. Le contrôle ou un devoir doit être fait jusqu'à telle heure. Il est l'heure, on rend. Terminé. Pas de dépêche-toi, on rend. C'est tout, c'est le cadre. Voilà. Sois parfait, ça empêche les élèves de lever la main pour dire des choses parce qu'ils croient que c'est faux et qu'on n'a pas le droit de dire des choses fausses. Pourtant, on sait très bien qu'on apprend à partir des erreurs. Pourquoi les élèves n'auraient pas le droit de dire leur raisonnement, même s'il ne tient pas la route. Et une fois que les élèves ont compris qu'ils ont le droit de lever la main, qu'ils ont le droit de faire des erreurs, qu'ils ont le droit de présenter un diaporama, même s'il y a des erreurs, mais parce que c'était un travail, eh ben on voit les élèves changer et oser, et rentrer dans des compétences qu'ils n'auraient pas eues autrement, en fait, par le travail d'équipe, après. Voilà. Et ces drivers, donc ces messages contraignants, sont, même s'il n'y a pas les mots qui le disent, sont transmis aux élèves par rapport à nos gestes, en fait. C'est, voilà. L'intonation, la posture, etc. Alors, d'autres messages, c'est les 12 injonctions de Bob et Marie Goulding. Pareil, ce sont des outils d'analyse transactionnelle que nous avons tous eus, hein, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'enfants, et les élèves, bien sûr, que nous avons en face de nous. Et ils ont aussi ces messages contraignants, ces injonctions. Ils n'existent pas. Alors il s'agit, c'est dans le sens que les élèves, si vous pensez que vous avez des êtres humains qui ont tous ces mots, enfin, qui sont particulièrement, ils ont ce genre d'injonctions dans leur tête, ça permet aussi d'enlever ces injonctions qu'ils ont par votre être, par notre savoir, par notre manière d'être, et qu'ils arrivent à croire, ben, je ne suis pas forcément celui qui ne réussit pas. Il y en a qui viennent, j'ai toujours été nul en maths, je serai toujours nul. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour montrer qu'ils ne vont pas être nuls toute leur vie en mathématiques ? Il est possible de ne pas rester nul toute sa vie en mathématiques. Donc, ne réussis pas. Ne sois pas toi-même. C'est-à-dire que, surtout, je n'ai pas le droit de m'exprimer, parce que sinon... je risque d'être regardé, humilié, ça va être pas juste, etc. Ne sois pas un enfant, Hein? Les enfants qu'on dit doivent grandir très vite, ils n'ont pas le droit de s'amuser. Alors ça, c'est la disposition des classes en élémentaire. Par exemple, si vous, en mettant par exemple un lieu de vie à l'arrière de la classe pour laisser à l'enfant qui a terminé son travail avant les autres jouer ou faire quelque chose qui l'intéresse, ben là, on laisse être enfant encore et pas seulement élève. Il y a un bon livre qui s'appelle « Un élève est aussi un enfant ». C'est un excellent livre. Alors, c'est basé sur l'analyse transactionnelle, mais c'est un excellent livre. Je l'ai emmené. Ne sois pas important, ne grandis pas, ne fais pas. C'est un message culturel. N'appartiens pas, ne sois pas proche, ne sois pas en bonne santé, les élèves qui sont tout le temps malades. Ne pense pas, le message culturel, hein. Tout le monde doit penser la pensée unique. Ne ressens pas. Donc, tous nos élèves ont des injonctions, ils n'ont pas tous, hein, de manière plus forte, on est tous construits par rapport à ce genre d'injonctions. Voilà. Donc, les élèves aussi, donc il s'agit de... Et vous le voyez systématiquement par les réponses qu'ils vous font quand vous faites un travail avec eux. Alors, là, je vais rentrer dans les relations, toujours les relations avec les élèves, hein. Ça, vous l'avez dans ce que je vous ai donné, parce que ça me paraît quand même intéressant au niveau professeur, ce qu'on induit au niveau des élèves. Par exemple, une situation d'élève. L'élève qui dit « je ne sais pas, toi tu sais ». Il ne va pas dire « toi tu sais », mais il dit « je ne sais pas ». Ça veut dire « je ne comprends rien ». Et le professeur va de toute façon répondre, ne t'inquiète pas, enfin il croit, enfin il attend du professeur, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ça s'appelle une relation négative symbiotique. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas systématiquement aller aider l'élève qui dit « je ne sais pas, toi tu sais ». Parce que ça entraîne une dépendance face au professeur. Si on veut que l'élève devienne autonome de ses apprentissages, il s'agit aussi de lui dire « mais je suis sûre que tu as quelque chose qui peut faire que tu vas y arriver, que tu vas trouver. » Et pas tout de suite, et pas dire « ah mais je t'avais déjà dit, je l'ai déjà expliqué, c'était ce qu'on a fait il y a une minute, je l'ai déjà dit juste avant, si tu avais écouté, tu saurais. » Là, vous êtes en train de culpabiliser, vous êtes en train de ne pas construire, vous êtes en train de dire, bon, ben voilà, ben, ok. Au contraire, de dire, ben moi je sais que tu es capable, tu sais quelque chose, je suis sûr que tu vas trouver. Voilà, cherche des outils. Alors ça, c'est la gestion mentale. Hein. Là, je suis dans la gestion mentale. Il s'agit de travailler et de ne pas forcément toujours répondre à l'élève qui demande de cette manière-là. Ensuite, on a une autre situation qui est la contre-dépendance. C'est la deuxième situation, c'est l'élève qui dit « je ne sais pas, toi tu n'arrives pas à me faire comprendre ». Ça arrive souvent, les élèves lui disent « eh ben, c'était la situation de mon collègue hier ». Mon collègue, les élèves, lui ont tout simplement dit « madame, monsieur, on n'a rien compris de ce que vous nous avez dit hier ». Alors, lui qui voulait faire une séance du jour, il a dû reprendre « mais je vous avais dit ceci, mais je vous avais dit cela ». Il est rentré là-dedans, dans la contre-dépendance. Et du coup, il a passé au moins une demi-heure à régler ce qu'il avait dit la veille pour trois élèves qui n'auraient rien compris, soi-disant. Voilà. Donc, je disais que ce professeur s'est fait manipuler par les élèves. Ça, je suis tutrice, donc je vais lui expliquer. J'espère que... Voilà, parce que je tiens vraiment qu'il arrive à... Il va être inspecté et je tiens quand même qu'il arrive à sortir de cela, quoi. Voilà. Mais c'est pas évident. Mais c'était sûr, les élèves, tout de suite. Dès qu'il a commencé sa séance, tout de suite, les élèves, « monsieur, on n'a pas compris hier. » Tout de suite. Et bien sûr, il est rentré là-dedans. Il ne sait pas, c'est normal. Quand on débute, on ne sait pas. Donc, l'intervention du professeur, c'est de donner la permission de dire non. C'est-à-dire que... Et d'exprimer sa colère. En fait, l'élève est... En tant que professeur, il s'agit d'accepter les critiques, mais de donner les informations nécessaires sur le programme, sur le contrat, et de dire, ben voilà. Et c'est pourquoi nous ferons cela, parce que le programme me demande, donc nous ferons cela. Hein, c'est les élèves qui disent pourquoi on fait ça, c'est pas intéressant. Moi, j'ai des élèves qui m'ont dit là, en début d'année, je travaille pas parce que votre cours n'est pas intéressant. C'est une fille qui restait tout le temps comme ça, les bras croisés, me dit vous feriez quelque chose d'intéressant, ben je travaillerai. Ben, j'ai dit écoutez, je vous propose de préparer mon cours si vous voulez. Et demain, j'attends que vous me mettiez quelque chose sur place. Le lendemain, je l'ai prise. J'ai dit mais vous m'avez présenté rien du tout. Non, madame, c'est bon, madame. Voilà, je veux dire que chacun sa place, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, c'est toujours notre faute, hein. Si on écoute les élèves, si ça va pas, c'est toujours notre faute. Donc, il s'agit quand même de se dire, c'est pas toujours notre faute. Alors, l'autre élève qui dit, va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Alors, vous l'avez expliqué. Puis, donc ça s'appelle de l'indépendance, mais c'est de la séparation. C'est-à-dire, toi, tu vois rien, de toute façon. Voilà, je me débrouille tout seul, de toute façon. Voilà. Et là, le professeur va donner les moyens pour qu'ils aient accès à d'autres ressources, en fait. L'élève, c'est-à-dire que l'élève, le professeur va accepter cette situation, mais il va lui donner des moyens pour que l'élève puisse accéder à d'autres ressources. Il veut se débrouiller seul, mais il se débrouille seul. Alors, il va trouver d'autres ressources. Et puis, l'élève, l'idéal, c'est d'avoir des élèves. Alors, ça. Bah, de toute façon, pas l'avoir hein, pour chaque élève de la classe. J'évolue avec toi. C'est l'élève qui veut évoluer avec le professeur. Ça veut dire on fait 50% et l'élève va faire 50% de son travail aussi. Et ça s'appelle l'interdépendance. C'est aussi la libération, l'autonomie, la coopération. Voilà. Et là, on se retrouve dans la situation où les objectifs communs sont reconnus. Les élèves reconnaissent les objectifs communs. Ils reconnaissent notre compétence. Et puis ils acceptent de discuter les propositions. Et ça nous permet de faire émerger leur motivation. Donc par rapport à l'élève qui a les capacités de changer, donc, il s'agit de vraiment se dire ça, de pas, j'allais dire, stigmatiser l'élève dans un statut qu'il n'a pas. Voilà. Donc il peut changer, et ça fait partie de la gestion mentale en fait, hein. Il peut changer sa manière de penser sur lui, sa manière de penser sur l'enseignement, sur l'enseignant, sur le monde, sur la classe, sur ses camarades, sur les autres, sur les apprentissages. Il peut changer aussi ses capacités, il peut changer sur ses sentiments sur lui, sur les autres. Il peut changer les attitudes. Donc, d'abord la pensée, c'est biblique, hein. On pense et la pensée va ressurgir sur les sentiments et ensuite sur les attitudes. Nos attitudes sont liées à nos pensées, très souvent. Donc, si on croit quelque chose, ça va induire sur notre comportement automatiquement. Alors, on a d'autres outils aussi que je ne vous ai pas dit, surtout je pense par exemple, on peut faire un contrat entre l'élève et le professeur. De toute façon, on est dans un cadre, on a l'éducation nationale, le lycée, l'école, il y a le professeur, il y a les élèves. Peut rentrer dans un apprentissage contractuel ou on peut rentrer là-dedans, dans un contrat où on voit bien que on n'est pas seul non plus, nous, avec les élèves. On peut faire aussi par exemple, dans la pédagogie institutionnelle, des temps. Maintenant, en secondaire, on appelle ça les heures de vie de classe. Alors, ça dépend ce qu'on y fait, mais si c'est un moment de pouvoir faire sortir toutes les émotions, etc. Moi, hier, par exemple, l'heure de vie de classe, il y a des élèves qui ont pleuré tellement qu'ils avaient d'émotions à sortir. C'était en tremblant jusqu'aux larmes, tellement parce que la classe commençait vraiment par dysfonctionner. Ça, vraiment, bon, il y a des problèmes. Et c'était par des pleurs. Et c'était nécessaire, sinon la classe allait imploser. C'était évident. C'était vraiment. J'avais plus du tout la classe depuis les vacances de Toussaint que j'avais avant. Donc, voilà. Donc ça, c'est les heures de vie de classe. En élémentaire, on peut faire des temps de causette. Ça s'appelle comme ça, la causette. C'est en pédagogie institutionnelle, comme la causerie. Hein, mais Fernand Houry appelait ça la causette. Par exemple, le matin, on laisse un quart d'heure ou une demi-heure. Enfin, le temps en maternelle, c'est certainement plus long. Mais même en élémentaire et jusqu'en CM2, le temps aux élèves de dire ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont sur leur cœur, et sans remarque, mais tout simplement de la causette. Voilà. Ou bien on peut aussi instaurer le conseil. Le conseil, ça veut dire que, en élémentaire, ça veut dire qu'il y a un élève qui va être un vrai conseil, comme un conseil de classe, avec un président de séance, etc., où on a le droit de parler, on est en démocratie, et puis c'est la manière d'instruire l'éducation civique, mais d'une manière pragmatique, vécue, hein, dans le faire et pas dans la théorie. On peut, alors tout ça, c'est dans, j'ai des livres, je peux vous proposer des livres. Moi, j'ai fait pour mon travail le travail qu'il fallait faire pour le professeur des écoles, j'ai fait un mémoire sur la pédagogie institutionnelle. Donc, c'est un peu ma spécialité, entre autres. Et puis, on peut construire un contrat individuel d'amélioration de comportement de réussite. Donc, ce contrat, les élèves le savent, mais ils n'ont pas forcément envie non plus. Hein. Voilà. Je pense que moi j'ai les élèves de terminale, donc ils sont bien formatés et puis bon, ils n'aiment pas tout ça. Mais peut-être si c'est fait plus tôt, ça peut marcher, je pense. Normalement, ça marche bien. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on diagnostique un problème. En fait, on est dans la démarche de projet. La démarche de projet, c'est on diagnostique un problème, on réfléchit à des options, des solutions. Qui pourraient être des priorités, qui pourraient être mises en place. Ensuite, on fixe des objectifs par rapport à ces priorités. Et par rapport à ces objectifs, on va fixer des actions, on met des moyens en œuvre pour arriver à atteindre les objectifs. Ben, c'est un peu ça qu'on peut faire avec les élèves. Il y a un état présent, qui est une situation de problème, un comportement, mais juste un comportement, par exemple le bavardage récurrent, ou les rires, ou les retards systématiques, ou n'importe quelque chose que vous avez envie de travailler individuellement avec un élève. Ensuite, formuler l'objectif d'une manière positive, c'est-à-dire que j'arrive 3 fois par semaine en retard, je vais arriver 2 fois par semaine à l'heure, par exemple. Donc il y a une fois autorisée, enfin autorisée entre guillemets, mais bon, voilà. Et cela pendant 15 jours. Ensuite on observe, on fait vraiment avec c'est des chiffres, que ce soit des données, des indicateurs chiffrés qui puissent être observables pour pouvoir améliorer le comportement. On fixe avec l'élève les moyens. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Bon, ben, je vais me coucher une demi-heure plus tôt, ou je vais arrêter de lire mes SMS à partir de 22h, ou je vais arrêter je ne sais pas quoi. Quelque chose de concret, réaliste. Et ensuite, les obstacles. Toujours penser aux obstacles. Les élèves ont plein d'obstacles, il s'agit de les prendre en considération. Mais mon père ceci, mais ma mère cela, mais il faut que je cherche mon petit frère à l'école. Donc je ne peux pas commencer mes devoirs avant 22h. Ou je dois encore faire la cuisine, enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est sur les obstacles. Et là, il s'agit de discuter des obstacles. Parce que ces obstacles, ben, c'est ça qui va empêcher d'arriver à l'objectif. Et si on discute des obstacles, des fois, ils arrivent à trouver des idées. Pas forcément le jour où on traite le problème, mais une semaine après. Ah, madame, peut-être, je peux pouvoir faire ça. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est une manière de travailler avec les élèves individuellement. Alors en conclusion, et là la conclusion vous l'avez sur votre feuille aussi, j'ai pris un peu des phrases qui me parlent de différents auteurs. Kant qui disait « La règle du maître doit être celle-ci, ne pas enseigner des pensées, mais apprendre à penser. Ne pas porter l'élève, mais le guider, si on veut que plus tard il soit capable de marcher de lui-même. » Ça, c'était donc sortir des 3 situations premières que je vous avais présentées pour entrer dans la situation de l'interdépendance où il y a l'autonomie de l'élève. Deuxième phrase de Clouzot, pour s'investir dans un apprentissage, il faut s'efforcer de donner à chacun le goût et les moyens de devenir le maître de ses apprentissages. Donc, ça veut dire qu'on sort du sauveteur. Troisième de Mérieux, qui est donc un spécialiste. Ce qui suscite l'imagination n'est pas la liberté, mais la contrainte. Et je peux vous donner un témoignage par rapport à cela. Je fais l'accompagnement personnalisé, mais personnalisé, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul élève, il y a toute la classe. Mais bon, c'est quand même personnalisé dans les titres de l'éducation nationale. Et donc, dans cet accompagnement personnalisé, je voulais faire le traitement des informations, des données. Donc, voilà, comment on travaille un traitement d'informations. Et ils venaient donc d'avoir leur manuel scolaire, et je leur ai dit, voilà, je vous laisse 5 minutes pour présenter
ce que vous avez trouvé d'intéressant dans les manuels que vous avez eus. Et là, ils étaient énormément. J'ai laissé 5 minutes, personne n'a pu trouver quoi que ce soit. C'était personne. Alors, madame, on ne sait pas quoi, qu'est-ce que vous cherchez, comment faire, vous ne nous avez rien dit, il y avait trop de liberté. J'ai rajouté des contraintes, je voulais faire un test, hein. Je ne m'étonnais pas du résultat. Hein. De toute façon, bon, un accompagnement personnalisé, on est libre de faire comme on veut, et c'était quand même, l'objectif, c'était vraiment de les sensibiliser qu'il s'agit d'avoir un objectif avant de faire de la recherche, et qu'on ne peut pas faire de la recherche sans savoir ce qu'on veut chercher. Donc c'était mon objectif, et là c'était la preuve que personne n'a pu trouver. Alors je leur ai dit, bon maintenant on refait un tour, et puis je vais vous fixer que vous allez prendre le manuel que vous avez envie, qui vous intéresse le plus. C'était déjà plus facile. On a refait des tours, et ainsi de suite. Donc plus qu'il y avait de contraintes, et après il fallait justifier pourquoi on choisit ce manuel, etc. Ça commençait par être intéressant. Donc vous voyez, les contraintes, ça permet vraiment de susciter l'imagination. Et la liberté était complètement était impossible à gérer par les élèves. Et donc là, l'objectif, c'était de leur dire, mais avant de commencer par lire un document, sachez ce que vous voulez chercher dedans. Quand vous allez au CDI, vous devez savoir ce que vous voulez chercher. Vous n'allez pas au CDI comme ça. Il s'agit de savoir quoi. Le silence est l'écrin de la pensée. Donc ça, c'est très important. Nous, on a trop l'habitude de parler. Il s'agit de temps en temps de se taire. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Ça, c'est Goethe qui disait ça. Et l'interdit construit. Ça, c'est Freud. Donc, ça veut dire que vous êtes bon d'interdire. Et donc, en conclusion, je dirais, voulons-nous faire passer le programme ou plus que le programme ? Je vais passer, là.
Non, merci. Alors, je crois qu'on va faire la même chose que pour Michael. On a jusqu'à 14h pour la pause. 7 minutes. Et que je pensais à l'égalité, en fait. Dans la fraternité et la liberté.
Je pense que ça a pris l'assistance que vous parliez de l'analyse transactionnelle, parce qu'elle n'est pas connue tout le monde. Très rapidement, face à ton fils, on a bien vu par exemple que c'était le message je et pas le message tu, juste comme ça. C'est une méthode, moi j'ai découvert en tant que mère et j'ai vu que le professeur aussi était appliqué à toutes ces fameuses méthodes du cordon. Voilà.
Alors, oui, vous voulez dire quelque chose?
Oui, c'était juste la question.
D'accord. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est vrai qu'on apprend à parler au jeu et pas au tu. Donc, c'est vraiment. Mais surtout, j'aimerais bien faire un schéma. J'aimerais bien me lever et pouvoir dessiner. On fonctionne sur trois registres. Le registre, c'est les petits ronds qu'on fait, n'est-ce pas? Parce que ça sera plus facile, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, il y a trois registres. Alors, je vais les faire comme ça. Il y a donc le P qu'on appelle le parent, le A qu'on appelle l'adulte et le E qu'on appelle l'enfant. En réalité, nous, professeurs... Alors, j'explique ce que c'est. Ce sont des instances, enfin, c'est la manière de parler, en fait, qui fait qu'on est dans un registre parent, adulte ou enfant. Le parent va dire... va donner des ordres. Tu m'amènes ceci, tu fais cela. Voilà, c'est plutôt... Voilà, c'est le parent qui parle à son enfant, en fait. Hein. Donc, il y a un supérieur, un dominant, un dominé. L'adulte va être dans la pensée, il va parler jeu. Je souhaite recevoir ce travail, je souhaite que ce travail soit terminé dans une heure. Voilà. Il est dans le cadre éthique, dans un cadre qui a été règlement, etc. On est dans une relation adulte. Et ensuite, il y a l'enfant où on est plutôt dans... Alors là, c'est dans le plaisir, j'ai envie de... J'aimerais... Alors la réalisation, on est un peu dans l'enfant, dans les besoins de Maslow. C'est plutôt j'aimerais ceci, j'aimerais cela, ça me fait plaisir, etc. Ce qu'il y a, c'est que quand nous communiquons... Alors je vais faire les... Voilà. Les élèves, ou le professeur et les élèves, chacun, nous sommes dans les trois registres. Nous, en tant que professeur, très souvent, on peut rentrer là-dedans. On parle à l'élève en tant que tu dois, on donne des ordres, dominant, dominé. Au lieu de parler à l'élève, bon, ça c'est le professeur, hein, c'est l'élève, au lieu d'être dans l'adulte, tout simplement, j'attends de toi cela, j'attends de toi ceci, je compte sur toi. Donc on n'utilise pas le tu, on utilise le je, mais ça rejoint aussi la progression neurolinguistique. On évite de parler au tu, on évite d'utiliser le toujours, le jamais, tu es toujours en retard, par exemple, tu es toujours en retard, ça va être parent-enfant, on n'est pas du tout dans l'adulte. Si l'élève qui est toujours en retard, mais il n'est pas toujours en retard, on pourrait dire je suis vraiment déçu de te voir en retard aujourd'hui. On est en train de dire, pas en train de dire comme d'habitude, comme les autres fois, mais aujourd'hui. Donc vous contextualisez bien dans la situation présente. Et ça, ça passe. Là, on est dans l'adulte-adulte. Voilà. Donc nous, par notre métier, on a ce défaut, je dirais, naturel d'être, et les parents en général aussi, vis-à-vis de leurs enfants malheureusement, d'être dans parent-enfant, au lieu de parler adulte-adulte. Et parler adulte-adulte, ça marche bien. L'autre jour, je devais prendre un téléphone portable d'un élève, par exemple. Je n'ai pas dit, j'ai dit, je veux que vous me donniez ce téléphone. Je n'ai même pas commencé comme ça, parce que j'étais dans l'autre bout de la classe et je voyais qu'elle bidouillait. Puis quand elle a vu qu'elle bidouillait, personne n'a vu, mais moi j'ai vu. Et j'ai vu qu'elle bidouillait, je me suis dit, je ne laisse pas passer. Et elle l'a caché. Mais elle a très bien vu que j'avais vu. J'aurais pu jouer le jeu, je laisse passer. Parce qu'aucun élève n'avait vu, mais après, ça aurait été dit. Elle m'a vu, elle n'a rien fait. Donc, du coup, elle m'a dit, mais j'ai rien, madame, dans la main. J'ai dit, je sais bien, mais vous savez que je vous ai vu. Alors là, j'ai dit le vous, hein, j'ai dit comme ça. Vous savez que je vous ai vu, donc je vous demande de me rendre ce téléphone. Donc, elle me l'a rendu. Mais j'ai contextualisé. Et c'était le cadre éthique aussi qu'on a rencontré. On n'utilise pas le téléphone. Mais il est important de contextualiser. Voilà, donc j'étais dans l'adulte. Et voilà, je ne sais pas si c'est clair, les explications, je ne vais pas déborder. Mais c'est un super outil. Alors là, il y a des stages. Bon.
Voilà. Ça fait déjà les 7 minutes.
Oui, bah d'accord. Voilà.
On peut, enfin, je
ne
sais pas, on peut peut-être prendre une question.
Je sais pas.
C'est juste par rapport à ça, j'ai l'impression que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne si d'emblée, un élève et un enfant, il arrive à comprendre la différence entre le statut enseignant et enfant. Or aujourd'hui, il n'est pas forcément d'accepter, l'enfant n'accepte pas d'emblée ce statut différent et rentre dans un jeu d'égalité, puis avoir une connivence, et finalement, ce jeu peut être problématique.
Mais quand on rentre dans un jeu, c'est qu'on est là-dedans, hein, que le professeur se met enfant-enfant alors. Hein. Mmh. Parce que si le professeur reste toujours adulte, il n'y a pas de risque. Mais il y a des limites vraiment qui se transgressent très facilement avec les téléphones portables. Hein. Les professeurs qui donnent leur téléphone portable, qui donnent leur adresse mail, etc. Moi, personnellement, je refuse. Hein. Vraiment. Ça, c'est une limite que je me fixe. Ma collègue m'a raconté qu'elle donne son téléphone portable à tous les élèves. Elle était là l'année dernière, importunée jusqu'à minuit par une élève qui faisait une crise d'angoisse et une crise de dépression. Je vais me suicider. Et elle était en train de communiquer avec cet élève. Voilà les dérives. Ça veut dire que ça s'agit de... Donc là, elle n'était plus du tout dans l'adulte, elle n'était plus du tout dans son rôle de professeur, elle était dans je ne sais pas quoi.
Les enseignants que leurs élèves dans l'année sur Facebook aussi, il y en a énormément.
Oui, je sais.
Sur Facebook, je réagis. Ça dépend dans quel but le compte est créé, quoi.
Oui, voilà, si c'est oui.
Oui, il y a moyen d'avoir un compte Facebook s'il est dédié à la
personne. Oui, c'est ça, je parlais juste d'amis qui vont tout voir sur leur mur.
Oui, mais après, effectivement, il faut savoir pourquoi on crée un compte Facebook et est-ce qu'il faut en créer trois.
Mais là, c'est pas, voilà, mais c'était pas effectivement dans le compte principal où il y a des
élèves. Oui, c'est tout à fait à éviter.